les ateliers d'Evaluna, l'émission qui écrit à vos oreilles.
Écrit libre.
La femme était esclave avant que l'esclave fût. Une émission spéciale anti-discrimination inspirée par Françoise Daubonne. Les réalisatrices, Diana Vivarelli, fondatrice de la compagnie Azimut Théâtre, comédienne, autrice, féministe. Et Sylvie Beauget, autrice, roman, nouvelle, théâtre, création sonore. Réalisation technique, Luc Richard, avec la participation de Vincent Daubonne. Dégoupilleur de matrimoine et essayiste, se consacre à la vie et l'œuvre de sa mère, Françoise Daubonne. Voix, Jean-Luc Alliot, comédien, Diana Vivarelli, Marie-Jeanne Richard, Sylvie Beauget et Vincent Daubonne. Musique, Anne Christ, Brigitte Fontaine et Catherine Ribeiro.
Mars 2020. Aujourd'hui, j'ai 100 ans et je n'ai pas peur du coronavirus parce que je suis déjà morte. Je m'appelle Françoise Daubonne et j'ai inventé trois mots qui disent tout de ma vie. Phallocrate, écoféminisme et sexocide. Le premier est entré dans le dictionnaire. Les deux autres grattent encore sur le paillasson de l'Académie française où le féminin est aussi bienvenu qu'un poisson dans un magasin de bicyclettes. J'ai traversé le XXe siècle en météore, enfant prodige, résistante, communiste, militante anticolonialiste, féministe et partisane de la cause homosexuelle, alors que je n'étais pas lesbienne, écologiste avant l'heure et poseuse de bombes à mes heures. J'ai écrit une centaine de livres, poésie, essais, romans, biographies, pamphlets. Ma devise était « Nulla dies sine linea, pas un jour sans une ligne. Un souci dont la mort m'a délivré le 3 août 2005 dans une indifférence quasi générale. J'emprunte ces mots à mon ami Élise Thiébaut, qui a si bien parlé de ma mère dans sa biographie L'Amazone verte, le roman de Françoise Daubonne, où elle y rappelle combien elle a marqué son siècle, de son premier roman de 230 pages en 1933 à 13 ans, à son dernier livre publié en 2003. On pourrait donc imaginer une vie de recluse, forçat de la plume sous la chandelle vacillante, et il n'en est rien. Dotée d'une vitalité hors norme, Françoise Daubonne aura plusieurs vies. Combattante, elle s'engage dans la résistance, l'insoumission à la guerre d'Algérie, les barricades de 1968, le MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Elle fonde ou confondent plusieurs groupes politiques avant-gardistes, dont le plus notable est le FAR, Front homosexuel d'action révolutionnaire. Amoureuse, elle découvre vers la cinquantaine les plaisirs auprès d'hommes bisexuels, après quelques histoires aussi courtes que désastreuses avec les pères de ses enfants. Elle, qui a vécu toute sa vie de femme fertile, sans possibilité anticonceptionnelle légale, peut enfin s'éclater et elle collectionne les amants, comme d'autres, les timbres-poste. Mère, elle n'a pas élevé ses enfants au quotidien, disant « J'ai été un très bon père ». Ce qui ne l'empêchera pas de les aimer à sa manière, plus ou moins distante selon les époques, et de leur trouver, toujours, la sécurité d'un foyer. Cette force primordiale s'éteindra le 3 août 2005, dans la résidence pour artistes nécessiteux que des proches lui avaient trouvé comme refuge, regrettant de nous laisser le monde dans cet état déplorable, mais soulagée de ne pas avoir à vivre ce qu'elle voyait advenir.
Le média indépendant Reporter qualifie d'emblée Françoise Daubonne comme pionnière de l'écoféminisme, adepte du sabotage, militante chevronnée, romancière et essayiste prolifique à la pensée foisonnante et subversive. Françoise Dobon, 1920-2005, était avant tout féministe. Elle a cofondé les mouvements de libération des femmes, les MLF, puis les Fronts homosexuels d'action révolutionnaire, les FAR. En parallèle, sa prise de conscience écologiste fut rapide, imprégnée du rapport Meadows, limite à la croissance de 1972, et des idées de Serge Moscovici. Plutôt que de mener séparément les deux combats, féministe et écolo, elle a opéré dès 1974 la synthèse entre la dénonciation de l'exploitation de la nature par l'homme et l'exploitation de la femme par l'homme.
Et si la domination de la femme avait, comme la domination de la terre, commencé avec la pose de la première clôture ? La femme était esclave avant que l'esclave fût. On ignore l'exact début de cet esclavage. On sait juste qu'il remonte loin, au moins au néolithique, 5000 ans avant notre ère. Il s'est sournoisement étalé dans le temps et dans l'espace, prenant des formes diverses.
J'entends le silence d'un monde où chaque jour nous est compté. J'entends hurler ce même monde. Je te dis, ma tête est hantée.
Pour Françoise, je cite, s'en prendre au capital n'est que s'en prendre à la pointe qui nous blesse et nous déchire. Le manche de larmes plonge dans la nuit des temps. Il se nomme patriarcat. Il se nomme civilisation mâle au schéma universel. Lorsqu'elle publie en 1976 « Les femmes avant le patriarcat », le dit patriarcat est une notion d'anthropologie employée par Claude Lévi-Strauss, par exemple. Il pense à l'époque que cette organisation sociale et juridique fondée sur l'exclusion explicite des femmes a toujours existé, puisque la recherche n'a pas découvert de société matriarcale en miroir, c'est-à-dire fondée sur l'exclusion explicite des hommes. La présence de systèmes alternatifs, si elle n'est pas niée, est jugée anecdotique. Françoise ne l'entend pas de cette oreille. Si elle est d'accord pour dire que des cultures matriarcales, comme un verre sans miroir du patriarcat, n'ont probablement jamais existé, elle soutient, je la cite, que « l'erreur de Bachofen est d'avoir confondu les sociétés matrilinéaires dans lesquelles le nom, la lignée est transmise par les femmes, et le matriarcat. Cette erreur pèse encore lourdement sur la conception de l'évolution humaine. » En relation avec le patriarcat dans son livre, elle pose la question du pouvoir. L'année même où l'anthropologue Pierre Clastres, qu'elle n'a pas connu, publie son livre essentiel « La société contre l'État » qui porte aussi sur la question du pouvoir. Elle est convaincue, avant les études de genre, que les figures d'hommes et de femmes sont, pour le principal, des constructions sociales, ce qu'il rapproche de Darwin dans la filiation de l'homme. Et enfin, pour elle, le mécanisme d'instauration du patriarcat ne s'est pas produit partout en même temps. C'est l'un des points que documente entre autres l'essentiel de Graber et Vengro, Au commencement était, paru en 2021. Mais aussi des études postérieures à la sortie de son livre de 1976. Tant dans l'anthropologie féministe et de genre, qu'en anthropologie politique, à la suite de Pierre Clastres jusqu'à aujourd'hui. C'est peu de dire qu'elle était visionnaire.
Jusqu'alors, les femmes possédaient les monopoles de l'agriculture et les mâles les croyaient fécondés par les dieux. Dès l'instant où il découvrit à la fois ces deux possibilités d'agriculteur et de procréateur, il instaura ce que Lederer, médecin et auteur de Gynophobie ou la peur des femmes, nomme les grands renversements à son profit. S'étant emparé du sol, donc de la fertilité, plus tard de l'industrie, et du ventre de la femme, donc de la fertilité, il était logique que la surexploitation de l'une et de l'autre aboutisse à ces doubles périls menaçants et parallèles. La surpopulation, excès de naissance, et la destruction de l'environnement, excès des produits. Le phallocratisme s'est ainsi constitué autour d'une structure sociale et politique patriarcale.
Prépare tes souliers de verre, au bout de tes doigts t'auras du sang. Faut prévoir le compte à revers, de l'amour qui bat en foutant le corps.
Avec la fin du nomadisme, lorsque les populations prennent racine, émergent les deux futurs piliers de notre système. 1. La terre où je me suis installée est à moi et pas aux autres. 2. Tirons le meilleur profit de nos terres. Exit la lutte pour la survie, du moins pour ceux qui ont pris possession d'un territoire. Bonjour propriété et productivité.
Pour combattre la surfécondation, il faut faire
une grève des ventres des noms
et cesser
le lapinisme phallocratique,
lance-t-elle en 1974 dans le journal anarchiste Marge. En 1978, elle plaide avec le mouvement écologie, féminisme, centre pour un contrôle des naissances à dimension nécessairement mondiale, car
un petit Américain ou Suisse va détruire davantage que 10 Boliviens.
L'appel n'est qu'un avertissement. Il doit s'accompagner d'un refus radical du système. Refus de l'argent, refus du salariat.
Un non-sens meurtrier.
Qui opprime les femmes et les travailleurs au nom du profit. Refus de la croissance, refus du pouvoir. L'autrice imagine les bases d'une société utopique régie par ses principes dans un roman publié en 77.
Les bergères de l'Apocalypse.
Après s'être approprié la richesse de la terre, le mâle patriarcal s'est approprié la seconde richesse de ce monde, sa propre reproduction, en surfécondant sa compagne, tandis qu'il surexploitait la terre. Françoise Daubonne, La nature de la crise, 1980.
Fin du nomadisme, fin de l'improvisation, début des sociétés organisées, système et hiérarchie, répartition des rôles, exploitation de la terre et de l'humain. Début du patriarcat, sans doute. Le possible devient fonction. La femme peut faire des enfants. En faire devient sa fonction. Fonction annexe, les élever. Fonction inhérente aux deux premières, qui la maintiennent à domicile, tenir la maison. Mais si sa condition lui impose de travailler au champ ou ailleurs, elle ajoutera cette autre fonction. Il n'a jamais été interdit aux femmes pauvres de travailler en plus.
Françoise, la franche tireuse. Dans le numéro 2 du journal Le Fléau Social, paru en octobre 1972, Françoise s'interroge sur la féminitude, en mettant en avant sa conviction qu'il n'existe pas de nature de femme.
Il n'existe pas plus de femmes essentielles que des prolétaires prédisposés ou des criminels nés. Un jour arrive toujours où l'on s'essaie, où l'on se découvre femme, non plus par une condamnation abstraite et collective, ainsi la mort, mais par l'effet du malheur individuel qui se révèle en même temps inévitable. C'est là, c'est moi, cet objet, cette chair à utiliser avec ou sans son consentement, cette négativité, ces trous. On ne l'est pas né, on l'est devenu. On se découvre troué avant de l'être pour de bon. Et par la même occasion, espèce à salir. Et par la même occasion, être dépendant, secondaire, borné à sa fonction physiologique, à l'exclusion des conduites spirituelles qui, dans les meilleurs des cas, ne peuvent être que secondarisées et non pas, comme pour l'autre, le mal, expression toute naturelle de sa prise sur le monde. Je ne suis donc que me payer le luxe d'escamoter par des mots ce qui m'écrase. Ces réalités, défloration, viol, avortement, grossesse, ménopause, je dois les vivre dans ma chair. Elles peuvent être compensées, adoucies, supportées. Elles n'en sont pas moins condamnation et leur terreur m'en accablera jusqu'à la vieillesse avec tout leur contexte des possibles. Danger. Catastrophe, avilissement, mutilation, maladie, mort.
Acier béton, rue de nulle part, revient s'asseoir sur le toit le même poison, acier béton.
Nous sommes, paraît-il, dans une société en mouvement. Pas tant que ça. Chacun est figé dans son rôle. Et toute tentative de s'évader hors de sa fonction est une aventure. La femme est une image. Femme à sa toilette, femme à son miroir, femme arrangeant ses cheveux, femme représentée à l'horizontale, souvent. La femme est un corps, sans puissance, mais résistant. Elle est mince, elle est grosse, elle a un corps utile un certain temps. La femme a des accointances avec la métaphysique aussi. Sainte ou sorcière, ça dépend. La femme est une réalité, c'est sûr. Mais quelle société lui accorde une emprise sur la réalité ?
Mon corps est vieux et solide. Les coups, les opérations à vif, l'avortement, l'accouchement. Il a tout vécu en défiant l'ennemi et se redressait en chantant. Ma monture, mon plus fidèle ami, le seul, ai-je dit et je le répète, avec l'écriture. Françoise Daubonne, de l'écriture, du corps de la Révolution, 1978.
L'oppression est-elle d'origine économique, politique, biologique ? Laquelle est la première ? Qu'est d'heure avons-nous passé, bien plus qu'à songer à l'amour et à rêver des garçons et des balles et des flirts ? Nous, les filles de ma génération, à discuter, à perdre haleine pour y voir clair dans notre malheur, en identifiant les têtes des lydres, en triant ces saloperies pour nous en instruire ou nous en consoler. Notre seul accord demeurait sur ces points. La condition des femmes, on ne disait pas encore féminitude, peut être glorieuse, revendiquée, persécutée, aliénée. Elle n'est jamais aisée, elle ne ressemble à rien de naturel. Elle est, avant toute chose, carence et étrangeté. Nous la vivions dans l'angoisse, comme la certitude d'une malédiction transmise des mères en filles par les récits, les lectures, la religion ou les laïcismes, les expériences, les folklores et les regards des mâles.
Notre système n'accepte pas le mouvement, sauf celui de la croissance et de la domination. Avoir plus, profiter plus, conquérir plus, faire plus d'enfants, gagner sur la nature, gagner des parts de marché, gagner sur terre, sur mer et dans l'espace.
La planète ne fait que 40 000 km de tour et tout le génie humain ne lui en ajoutera jamais un seul. Françoise Debonne, 1974, Le féminisme ou la mort.
Françoise la guerrière, Françoise l'intrépide. Les femmes sont à l'avant-garde du refus du nucléaire, qui n'est autre que le dernier mot de cette société bâtie sans elles et contre elles. C'est une urgence que de souligner la condamnation à mort par ce système à l'agonie convulsive de toute la planète et de son espèce humaine. Si le féminisme, en libérant la femme, ne libère pas l'humanité tout entière, à savoir n'arrache pas le monde à l'homme d'aujourd'hui pour le transmettre à l'humanité de demain, nous sommes en 1974, quand Françoise Debonne publie ces mots visionnaires dans son essai « Le féminisme ou la mort ». Et l'approfondit dans « Écologie-féminisme, révolution aux mutations ». En 1978, c'est entre ces deux ouvrages qu'elle publie « Les femmes avant le patriarcat » en 1976, qui fut traduit en italien la même année.
Françoise la mutante, d'après Testament politique de 1991. Les moments nous semblent venus d'exposer que le féminisme n'est pas seulement ce qui lui a déjà donné sa dignité fondamentale, la protestation de la catégorie humaine la plus anciennement écrasée, exploitée, puisque la femme était esclave avant que l'esclave fût. Mais que le féminisme, c'est l'humanité tout entière en crise et c'est la mue de l'espèce. C'est véritablement le monde qui va changer de base. Et beaucoup plus encore. Il ne reste pas les choix. Si le monde refuse cette mutation qui dépassera toute révolution, comme la révolution a dépassé l'esprit de réforme, il est condamné à mort. Et à une mort à la plus brève échéance.
Pas de printemps sans hiver. Nous en sommes là, justement. Plus assez de ressources, plus assez de terre, plus assez d'eau. Quelques millénaires de délire conquérant, d'une croissance agressive, longtemps nommée progrès, du culte de la domination nommée réussite, du mépris de ce qui n'est pas mal, du rejet de ce qui est faible et apparemment inutile, ont eu raison du vivant. Et maintenant ?
Le maintien de l'âge industriel, c'est la fin du monde terrestre dans 30 à 50 ans.
Françoise l'intemporelle, d'après son testament philosophique et politique. Tant qu'une catégorie d'êtres humains minoritaires exploitera et dépouillera une autre, quelle que soit la nature de chacune, sexuelle, raciale, économique, tant que se maintiendra n'importe où l'exclusion et l'oppression, à un mot, tant que l'aliénation triomphera sur Terre en organisant une subordination de la faiblesse à la force, il est impossible que des contestations d'une croissante violence n'ébranlent pas l'édifice millénaire de l'humanité. Ni la mondialisation, ni l'informatique, ni l'hyperbolique communication qui aboutit si bien à l'isolement et à la désinformation sourdissante ne pourront rien contre cette loi dont la dynamique gouverne les hommes comme celle de la physique et la matière. C'est pourquoi une octogénaire combattante contre l'aliénation écrit ces pages à l'attention des jeunes générations qui seront les citoyens du XXIe siècle.
En 1974, le professeur Lejeune, professeur qui était le chantre de la lutte contre l'avortement, décide d'organiser un meeting à la Mutualité. Françoise Debonne et ses amis ne l'entendent pas de cette oreille. Elles ne vont pas laisser se faire quelque chose comme ça. La question se pose, comment on peut l'interrompre ? Parce que ce meeting était encadré par les groupes Union Défense, qui étaient des garçons d'extrême droite, formés par les anciens de l'OAS. Bref, ce n'était pas détendre. Et l'affrontement physique allait être inéluctable. Donc, qui dit affrontement physique, dit ne pas arriver les mains vides. Si on arrive avec une matraque et qu'on se fait coffrer, on se retrouve inculpé pour utilisation d'une arme de quatrième catégorie. Les copines discutent entre elles et Françoise dit « J'ai une solution. On va acheter des gros saucissons secs d'un kilo, un kilo et demi. Bien long. Pourquoi ? Parce que le saucisson sec est une arme de septième catégorie. » Et voilà donc nos copines, Françoise Debonne, Marie-Jo Bonnet et toutes les autres, qui partent à la Mutualité munies de leur saucisson sec. Elles chargent les gars du DUD, elles n'avaient pas peur physiquement, ils sont tellement stupéfaits qu'ils se font balayer. La réunion est interrompue et suite à l'interruption de cette réunion, les copines repartent, elles avaient acheté aussi quelques bouteilles de rouge et elles ont mangé leur saucisson en buvant leur rouge, en rigolant comme des bossus.
Le lendemain matin, on peut recommencer. On retourne au chagrin, chacun dans sa tranchée. Cher, très cher, cher, très cher.
Et maintenant, une courte bibliographie spéciale anti-discrimination des autrices ayant participé à ces pages sonores. Le roman de Diana Vivarelli, Pour ton bien, paru en mars 2024 aux éditions Spinel, situé dans les années 1970-80 en Italie, il parle de féminisme, du refus de maternité et d'écologie. Être née était ma faute primordiale. Ne pas suivre les conseils de ma mère, un affront. Mettre une mini-jupe, une provocation. Socialement indigne, ma frénésie d'indépendance m'empêchait d'adhérer à la norme. Le recueil de nouvelles de Sylvie Bauget, capitaine de projet, paru en 2021 aux éditions Rhubarbe, explore le monde du travail. Vu du creuset d'une boîte de formation, c'est toute une humanité qui passe. En face aussi, ils ont des projets d'optimisation, de rationalisation, de décrutement. À ce jeu, c'est rarement le plus précaire, le plus inadapté, le plus faible qui gagne. Premier épisode d'une série de podcasts inspirés par Françoise Debonne, La femme était esclave avant que l'esclave fût. Retrouvez Françoise sur le site françoisedebonne.org.
Un podcast spécial anti-discrimination inspiré par Françoise Debonne.
Les ateliers d'Eva Luna, l'émission qui écrit à vos oreilles.
Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre. Écrit libre. Écrit libre.